Chapitre 16. La faiblesse de personne. Le temps étant arrivé d'aller renouveler connaissance avec la famille Meagles, Clennam, d'après une convention arrêtée entre lui et M. Meagles, dans l'enceinte même de la cour du cœur saignant, tourna ses pas, un certain samedi, du côté de Twickenham, où M. Meagles habitait un cottage à lui appartenant. Comme il faisait beau et sec, et comme après son long exil, toute route anglaise avait droit à son intérêt, il envoya sa valise par la voiture et partit à pied. Une pareille promenade était en elle-même une distraction nouvelle pour lui et dont il avait rarement pu jouir à l'étranger. Il alla par Fulham et Putney, rien que pour le plaisir de traverser la bruyère. Il faisait un temps superbe, et une fois sur le chemin de Twickenham, il avait déjà voyagé en imagination vers une foule de buttes plus vaporeux et moins réels qui n'avaient pas tardé à l'assiéger en route. Il n'est pas facile de se promener seul dans la campagne sans rêver à quelque chose, et Arthur avait dans l'esprit assez de châteaux en Espagne pour fournir à ses méditations jusqu'au bout du monde. Il y avait d'abord la grave question à laquelle il songeait constamment. Qu'allait-il faire désormais? À quelle occupation allait-il se vouer et où devait-il la chercher? Il était loin d'être riche, et chaque jour d'indécision et d'inaction rendait son patrimoine plus inquiétant pour lui. Dès qu'il commençait à songer aux moyens de l'augmenter et aux placements qu'il en devait faire, l'idée que quelqu'un pourrait avoir à se plaindre de quelque spoliation lui revenait à l'esprit. Et ce sujet à lui tout seul eût suffi pour lui tenir compagnie pendant la plus longue des promenades. Puis il y avait encore ses relations, maintenant établies sur un pied d'égalité pacifique, mais non de confiante intimité, avec sa mère qu'il voyait plusieurs fois par semaine. La petite Dorrit était encore un de ses sujets de réflexion, le principal peut-être, et le plus souvent présent à sa pensée. Car les circonstances de sa vie unies à celles de l'histoire de la jeune fille lui présentaient ce petit être comme la seule personne à laquelle il fût attaché par des liens quelconques, liens d'une innocente confiance d'un côté et d'une protection affectueuse de l'autre. Liens de compassion, de respect, d'affection désintéressée, de reconnaissance et de pitié. Il songeait à elle et aux chances qu'il y avait pour que le doyen fut bientôt délivré de son long emprisonnement par la main de la mort qui tire tous les verrous, seul accident qui put permettre à Clennam de rendre à la jeune fille le service qu'il désirait lui rendre en changeant de fond en comble sa manière de vivre, en lui aplanissant l'avenir et en lui donnant un chez-elle. Il avait fini par faire dans sa pensée sa fille d'adoption de cet enfant de la prison à laquelle il voulait assurer un sort paisible. S'il existait dans son esprit un autre sujet de méditation qui concerna la ville de Twickenham, la forme en était si indécise qu'elle ne représentait guère qu'une espèce d'atmosphère ambiante où flottaient ses autres rêveries. Il venait de traverser la bruyère lorsqu'il se rapprocha d'un piéton qui marchait devant lui depuis quelque temps et qu'il crut bientôt reconnaître à un je ne sais quoi dans ses airs de tête et dans sa tournure réfléchie pendant qu'il s'avançait d'un pas délibéré. Mais aussitôt que ce compagnon de voyage eut repoussé son chapeau en arrière pour s'arrêter à examiner quelque chose devant lui, Arthur ne put plus méconnaître Daniel Doyce. « Comment vous portez-vous, monsieur Doyce ?» dit Clennam en le rejoignant. « Je suis charmé de vous retrouver dans un endroit moins insalubre que les bureaux du ministère des circonlocutions. » « Ah, l'ami de monsieur Meagles !» s'écria le malfaiteur, se réveillant de quelque combinaison mentale qu'il était en train de faire et lui tendant la main. « Je suis charmé de vous voir, monsieur. Excusez-moi seulement d'avoir oublié votre nom. De tout mon cœur, ce n'est pas un nom célèbre. Je ne m'appelle pas Mollusque. »« Non, non, » répondit Daniel en riant. « Et maintenant, je me le rappelle. C'est Clennam. Comment vous portez-vous, monsieur Clennam ?»« J'espère bien, » continua Arthur en faisant route avec lui, « que nous dirigeons-nous pas vers le même endroit, monsieur Doyce. »« Vers Twickenham, alors, » répliqua Daniel. « Tant mieux. » Ils devinrent bientôt très intimes et abrégèrent le chemin par une causerie variée. L'ingénieux coupable était un homme de beaucoup de modestie et de bon sens, et malgré sa simplicité, il avait trop pris l'habitude de concilier les conceptions les plus originales et les plus hardies avec une exécution patiente et minutieuse, pour être resté un homme ordinaire. Il fut d'abord difficile de le faire parler de lui-même, et chaque fois il répondait d'une manière évasive aux questions d'Arthur, avouant seulement, sans en tirer vanité, qu'en effet c'était lui qui avait fait ceci, puis encore que c'était lui qui avait fait cela, que telle chose sortait bien de ses ateliers, et que telle autre invention était bien de lui, mais ce n'était pas malin. C'était son métier, voyez-vous, son métier. Enfin, reconnaissant que son compagnon s'intéressait réellement à son histoire, il la lui raconta tout franchement. Arthur apprit alors que Daniel Doris était fils d'un forgeron d'un comté du Nord, que sa mère, devenue veuve, l'avait mis en apprentissage chez un serrurier, qu'il avait inventé quelques petites choses chez le serrurier, qui avait résilié son engagement et lui avait fait un cadeau, que ce cadeau avait permis à l'apprenti de réaliser son ardent désir d'entrer chez un mécanicien ingénieur, chez lequel il avait travaillé rude, étudié ferme et vécu durement pendant 7 années. Son temps d'apprentissage terminé, il avait travaillé 7 ou 8 autres années dans l'atelier payé à la semaine. Puis il était allé en Écosse, où il avait encore étudié, limé, martelé et augmenté ses connaissances théoriques et pratiques pendant 6 ou 7 ans de plus. Là, on lui avait proposé d'aller à Lyon, et il avait accepté. De Lyon, on l'avait invité à se rendre en Allemagne, et en Allemagne, on l'avait invité à se rendre à Saint-Pétersbourg, où il avait réussi, mieux réussi que partout ailleurs. Cependant, il avait une préférence bien naturelle pour le pays où il était né, et c'est là surtout qu'il aurait voulu se distinguer et se rendre utile. De façon qu'il était revenu établir ses ateliers en Angleterre, où il avait inventé et construit des machines. Enfin, il avait fait son chemin jusqu'au moment où, après 12 ans de sollicitations et de factions, il avait enfin été enrôlé dans la Légion d'honneur de la Grande-Bretagne, la Légion des découragés du ministère des Circonlocutions, et avait été décoré de l'Ordre du Mérite britannique, c'est-à-dire l'Ordre du Désordre des Mollusques et des Échasses. « Il est à regretter, dit Clennam, que vous ayez jamais tourné vos pensées de ce côté, monsieur Doyce. »« C'est vrai, monsieur, jusqu'à un certain point. Mais que faire? Lorsqu'un homme a eu le malheur d'inventer quelque chose qui doit être utile à son pays, il faut qu'il se dévoue. » « Ne ferait-il pas mieux de renoncer à faire connaître son invention ?» demanda Clennam. « Il ne peut y renoncer, » répondit Doyce, secouant la tête avec un sourire pensif. « Elle n'a pas été mise dans sa tête pour y être enterrée. Elle y est mise pour devenir utile. Nous ne tenons du ciel notre vie qu'à la condition de la défendre vaillamment jusqu'au bout. Tout inventeur tient aussi sa découverte aux mêmes conditions. » « C'est-à-dire, » reprit Arthur, avec une admiration croissante pour son paisible compagnon, que, même aujourd'hui, vous n'êtes pas irrévocablement découragé. « Si je le suis, j'ai tort, » répliqua l'autre. « Ma découverte est aussi vraie aujourd'hui qu'hier. » Ils marchèrent quelque temps en silence. Clennam, voulant changer le cours de la conversation sans trop en avoir l'air, demanda à M. Doyce s'il avait un associé qui le débarrassa au moins en partie du souci des affaires. « Non, répondit-il, pas maintenant. J'en ai eu un en commençant, et c'était un brave homme. Mais il est mort depuis quelques années, et comme je ne pouvais pas aisément me résoudre à en prendre un autre après l'avoir perdu, j'ai racheté sa part, et depuis, j'ai continué tout seul. Et c'est encore là un de nos défauts, continua-t-il en s'arrêtant un instant, avec un rire plein de bonne humeur dans le regard, et lui prenant le bras avec sa main droite, cette main dont le pouce était doué d'une souplesse si particulière, c'est que nous autres inventeurs, nous ne valons rien pour les affaires, vous savez. Non, du moins à ce que disent les hommes d'affaires, répondit Doyce, se remettant en marche et riant tout haut. Je ne sais pas trop pourquoi nous autres, pauvres diables d'inventeurs, nous passons pour manquer de bon sens, mais toujours est-il qu'on nous le refuse. Jusqu'à notre excellent ami M. Meagles, « le meilleur ami que j'ai au monde, » poursuivit-il en faisant un signe de tête du côté de Twickenham, « qui étant sur moi une sorte de protection, vous en avez été témoin, comme si je n'étais pas tout à fait capable de marcher seul. » Arthur Clennam ne put s'empêcher de prendre part au rire de son compagnon, car il reconnaissait la vérité de cette remarque. de sorte que je vois qu'il me faut pour associé un homme d'affaires qui ne se soit rendu coupable d'aucune découverte, reprit Daniel Doyce, ôtant son chapeau pour passer la main sur son front, quand ce ne serait que pour soutenir la réputation de mes ateliers. Il ne trouvera pas, je crois, mes livres tenus avec négligence ou confusion. Mais nous verrons ce qu'il en dira. Ce n'est pas à moi à me vanter de ça. Vous ne l'avez donc pas encore choisi ? Non, monsieur, non. Je viens seulement de me décider à en prendre un. Le fait est qu'il y a plus de besogne qu'il n'y en avait. Et la surveillance des travaux suffit pour me donner assez d'occupation, maintenant que je prends de l'âge. En outre, il y a la comptabilité et la correspondance, et puis le voyage à l'étranger, où la présence d'un chef est souvent nécessaire, et je ne puis pas tout faire. Si je peux trouver une demi-heure d'ici à lundi matin, je compte en entretenir, dit-il en riant, celui qui est à la fois ma bonne et mon protecteur. Il comprend bien les affaires, il n'y a pas perdu son apprentissage, et il pourra me donner là-dessus de bons avis. » Ils causèrent ensuite de choses et d'autres jusqu'au moment où ils arrivèrent au terme de leur voyage. On remarquait chez Daniel Doyce une résolution recueillie et modeste, une certitude calme et sérieuse que ce qui est vrai est toujours vrai, en dépit de tous les mollusques qui peuplent l'océan social. Et cette conviction avait sa grandeur, qui valait bien celle des personnages officiels. Comme il connaissait bien la maison de M. Meagles, il y conduisit Clennam par le chemin qu'il a montré le mieux à son avantage. C'était un charmant endroit, et situé non loin des bords de la rivière, qui ne perdait rien à être un peu excentrique. Une résidence, en un mot, faite tout juste pour la famille Meagles. Elle s'élevait au milieu d'un jardin qui, au printemps de l'année, devenait sans doute aussi frais et aussi beau que l'était Chéri au printemps de sa vie. Elle était entourée d'une masse de beaux arbres et de plantes grimpantes qui la protégeaient comme M. et Mme Meagles protégeaient Chéri. Elle avait été formée d'une vieille maison de briques dont une partie avait été complètement démolie et dont on avait conservé l'autre pour en faire le cottage actuel. De façon qu'il y avait une portion solide et d'un âge mûr pour représenter M. et Mme Meagles et une jeune portion pittoresque pour représenter Chéri. On y avait même ajouté, depuis peu, une serre adossée au pignon de la maison, à laquelle des vitres de couleur foncée donnaient un éclat incertain et qui, dans les endroits les plus transparents, flamboyaient au soleil, tantôt comme un incendie, tantôt comme d'innocentes gouttes d'eau. Cette serre, avec un peu de bonne volonté, pouvait passer pour représenter Tattycoram. De la maison, on apercevait la paisible rivière avec le bac du passeur qui semblait faire la morale à tous les habitants et leur dire, jeunes ou vieux, mortels irritables ou pacifiques, mécontents ou satisfaits, vous tous qui me voyez, le courant ne s'arrête pas. Que vos cœurs se gonflent tant qu'ils voudront au vent de la discorde, l'onde qui se ride en se jouant autour de la proue de ce bac, chante toujours la même chanson. D'année en année, eu égard au tirage du bateau, la rivière fait tant de milles à l'heure. Ici des roseaux, là-bas des lys, rien de vague, rien d'incertain sur cette route qui poursuit en fuyant sa course régulière, tandis que vous autres, embarqués sur le fleuve rapide du temps, vous n'êtes que tourments et caprices. La cloche de la grille avait à peine sonné que M. Meagles vint à leur rencontre. M. Meagles s'était à peine montré que Mme Meagles se montra. Mme Meagles s'était à peine montré que Chéri se montra. Et Chéri s'était à peine montré que Tattycoram se montra aussi. Jamais visiteurs ne reçurent meilleur accueil. « Nous voici dans notre cage. Vous voyez, dit M. Meagles, nous voici renfermés, M. Clennam, dans les limites du chez-soi, comme si nous ne devions plus reprendre notre essor, c'est-à-dire comme si nous ne devions plus voyager. Cela ne ressemble pas à Marseille, hein? Il ne s'agit pas d'allons, marchons, ici. Non, certes, c'est un autre genre de beauté, répondit Clennam en regardant autour de lui. Mais c'est égal, s'écria M. Meagles, se frottant les mains d'un air joyeux. Quel temps agréable nous avons passé en quarantaine, n'est-ce pas? J'ai souvent désiré y retourner, savez-vous? Nous avions là une ravissante société. » C'était en effet une habitude invariable de M. Meagles de trouver tout désagréable pendant qu'il voyageait et de vouloir toujours y retourner lorsqu'il ne voyageait pas. « Si nous étions en été, dit M. Meagles, et je voudrais y être à cause de vous, afin que vous puissiez voir notre cottage dans son beau, nous pourrions à peine nous entendre à cause des oiseaux. En notre qualité de gens pratiques, nous ne souffrons pas qu'on effarouche les oiseaux, et les oiseaux étant de leur côté des gens pratiques, nous arrivent par myriades. Nous sommes enchantés de vous voir, Clennam, si vous voulez bien me permettre de supprimer le monsieur. Je vous assure que nous sommes vraiment enchantés. Je n'ai pas encore reçu d'accueil si cordial, dit Clennam. Puis il se rappela ce que la petite Dorrit lui avait dit chez lui, et il ajouta avec franchise, un seul excepté, depuis que nous nous sommes promenés ensemble sur les côtes de la Méditerranée. Ah, répliqua M. Meagles, ça valait la peine d'être vu, n'est-ce pas? Je ne tiens pas à vivre sous un gouvernement militaire. Mais je ne serais pas fâché d'avoir un peu d'allons, marchons, rien qu'un peu, dans mon voisinage actuel. Je le trouve diablement tranquille. Après avoir fait cet éloge de la tranquillité de sa retraite, avec un hochement de tête dubitatif, M. Meagles conduisit ses hôtes dans la maison. Elle était tout juste aussi grande qu'il fallait, rien de plus, aussi jolie à l'intérieur qu'à l'extérieur, très bien disposée et fort confortable. On retrouvait quelques traces des habitudes voyageuses de la famille dans les cadres enveloppés de gaz, les meubles recouverts de leur housse, les rideaux relevés. Mais on reconnaissait facilement que M. Meagles avait la manie de faire tenir la maison, en son absence, comme si la famille devait revenir le jour d'après. Il y avait une telle macédoine d'objets ramassés dans ses nombreuses expéditions qu'on eût dit la retraite de quelque aimable corsaire. On y voyait les antiquités de l'Italie centrale, fabriquées par les meilleures maisons modernes qui s'adonnent à ce genre d'industrie, des morceaux de momies d'Égypte et peut-être de Birmingham, des modèles de gondoles vénitiennes, des modèles de villages suisses, des fragments de mosaïques d'Herculanum et de Pompéi qui ressemblaient à des pétrifications de viande hachée, des cendres trouvées dans diverses tombes et de la lave du Vésuve, des éventails espagnols, des chapeaux de paille de Spezia, des pantoufles mauresques, des épingles toscanes, des sculptures de Carrare, des fichus de Trastavirini, des velours et de la filigrane de Gênes, du corail napolitain, des camées romains, de la bijouterie de Genève, des lanternes arabes, des rosaires bénis d'un bout à l'autre par le pape en personne, et une variété infinie de vieilles friperies. Il y avait des vues plus ou moins ressemblantes d'une foule d'endroits. Il y avait une petite salle consacrée à quelques tableaux de vieux saints gluants, avec des nerfs comme des cordes, des cheveux aussi bien peignés que ceux de Neptune, des rides qui ressemblaient plutôt à des tatouages, et des couches de vernis si abondantes que chacun de ces pieux personnages pouvait remplacer ce qu'en langage vulgaire et moderne on appelle du papier du mouche. M. Meagles parlait de ses acquisitions artistiques comme le font la plupart des amateurs. Il ne prétendait pas se poser en connaisseur, disait-il, mais il savait ce qui lui plaisait. Il avait acheté ses toiles pour presque rien, et généralement on les trouvait fort belles. Quelqu'un qui passait pour avoir des connaissances en peinture avait déclaré qu'un sage lisant, un vieux gentleman encore plus huileux que les autres, vêtu d'une couverture de laine, avec une palatine d'édredon en guise de barbe, et tout couvert d'un filet de fêlure, comme la croûte d'une tarte trop cuite, et du Guercino. Quant à ce Sébastien del Piombo que voilà, tout le monde pouvait en juger par soi-même. Si le tableau n'était pas dans la seconde manière de cet artiste, de qui voulez-vous qu'il soit? Voilà la question. Du Titien? Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être le Titien n'a-t-il fait que le retoucher. À moins, dit Daniel Doyce, qu'il n'y ait pas touché du tout. Mais M. Meagles fit semblant de ne pas entendre de cette oreille-là. Après avoir montré tous ses trophées de voyage, M. Meagles conduisit ses visiteurs dans sa propre chambre, petite salle fort commode qui donnait sur la pelouse et qui tenait le milieu entre un cabinet de toilette et un bureau. On y voyait, sur une sorte de pupitre comptoir, des petites balances à peser de l'or. « Les voici, ma foi, vous voyez, » dit M. Meagles. « Voici les instruments derrière lesquels je me suis tenu pendant 35 années consécutives. » Quand je ne songeais pas plus à courir le monde que je ne songe aujourd'hui à rester chez moi. Lorsque j'ai quitté la banque pour de bon, j'ai demandé à les emporter avec moi. J'aime mieux vous le dire tout de suite. Sans cela, vous pourriez supposer que je reste assis dans mon bureau. C'est Géry qui m'en fait la guerre, comme le roi du poème des 24 merles, à compter mon argent. » Les yeux de Clennam s'étaient dirigés vers un tableau accroché au mur et représentant deux petites filles qui se tenaient par la taille. « Oui, Clennam, » dit Meagles baissant la voix, « les voilà toutes les deux. Ces portraits ont été faits il y a quelque chose comme 17 ans. Par conséquent, à cette époque-là, comme je le disais souvent à la maman, c'était des vrais babies. » « Et leur nom ?» demanda Arthur. « Ah, c'est juste. Vous n'avez jamais entendu d'autre nom que Chéri. Chéri s'appelle Minnie et sa sœur Lily. » Auriez-vous deviné, monsieur Clennam, que l'un de ces deux portraits est le mien ?» demanda Chéri elle-même, qui venait de se montrer dans l'embrasure de la porte. « J'aurais pu croire que le peintre aurait voulu vous représenter deux fois, tant les deux portraits vous ressemblent encore. » Et même, ajouta Clennam, comparant des yeux le charmant original et le tableau, je ne saurais dire quel est celui des deux qui n'est pas votre portrait. Entends-tu cela, mère ? S'écria M. Meagles à sa femme, qui avait suivi sa fille. Tout le monde en dit autant, Clennam. Personne ne peut se prononcer. L'enfant à votre gauche est Chéri. Le tableau se trouvait par hasard près d'une glace. Comme Arthur regardait de nouveau les portraits, la réflexion du miroir lui montra Tattycoram, qui, après s'être arrêté devant la porte pour écouter ce qu'on disait, s'éloignait en fronçant les sourcils, avec une expression irritée et dédaigneuse qui lui faisait perdre tout l'avantage de sa beauté. « Mais voyons, » dit Meagles, « vous venez de faire une longue promenade, et vous ne serez pas fâché d'ôter vos bottes. Quant à Daniel que voilà, je suppose qu'il ne songerait jamais aux siennes, si on ne lui montrait pas un tire-botte. « Pourquoi pas ?» demanda Daniel, qui adressa à Clennam un sourire significatif. « Oh, vous avez tant d'autres choses en tête !» répondit M. Meagles en lui frappant sur l'épaule, comme s'il ne fallait, sous aucun prétexte, abandonner le mécanicien à sa propre faiblesse. Des chiffres, des rouages, des engrenages et des leviers, des vis et des cylindres, et 1000 autres choses. « Dans ma profession, » répondit Daniel en riant, « nous disons en général que qui peut le plus peut le moins. Mais pas, comme vous voudrez. » Clennam ne put s'empêcher, tandis qu'il s'asseyait auprès du feu, dans sa chambre, de se demander s'il n'y avait pas, dans ce sincère, affectueux et cordial M. Meagles, une portion microscopique de la petite graine qui avait fini par devenir ce grand arbre que nous appelons le ministère des circonlocutions. Clennam en eut peur, en voyant son étrange prétention à une supériorité générale sur Daniel Doyce, fondée bien moins sur le caractère personnel de ce dernier que sur le seul fait que c'était un novateur, un homme qui n'était pas comme tout le monde. Il y avait là de quoi lui donner à penser, une heure durant, jusqu'au dîner. S'il n'avait pas eu à s'occuper d'une autre question qui datait de si loin qu'elle remontait même à une époque antérieure à son séjour dans la quarantaine de Marseille, et qui maintenant se présentait à son esprit, demandant une solution immédiate. Cette question importante n'était autre que celle-ci. Se laisserait-il aller ou non à devenir amoureux de Chéri ? Il avait deux fois son âge. Il changea de place à la jambe qu'il avait croisée sur l'autre pour recommencer son calcul, mais le total obtenu s'obstina à rester le même. Il avait deux fois son âge. Bah, il avait l'air jeune. Il était jeune de corps et de santé, jeune de cœur. Certainement un homme n'est pas vieux à 40 ans. Combien n'y en a-t-il pas qui ne sont pas en état de se marier et ne se marient pas avant d'avoir atteint cet âge? Voilà qui est réglé pour lui. Reste Chéri, car il ne suffit pas qu'il soit de cet avis, il faut savoir ce qu'elle en pense. Arthur croyait M. Meagles disposé à avoir pour lui une estime sérieuse, comme il avait lui-même une estime sincère pour M. Meagles et pour sa bonne femme. Il prévoyait que le sacrifice de cette belle et unique enfant, qu'ils aimaient tant, à un mari serait pour leur amour une épreuve si pénible qu'ils n'avaient peut-être pas encore eu le courage d'y songer. Mais plus leur fille était belle et engageante et charmante, plus l'époque de cette épreuve nécessaire se rapprochait pourtant. Et pourquoi pas en sa faveur, aussi bien qu'en faveur de tout autre. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit de son raisonnement, il lui revint à l'esprit que la question n'était pas de savoir ce qu'en pensaient M. et Mme Meagles, mais ce que Chéri en penserait. Arthur Clennam était un homme modeste, sachant tout ce qui lui manquait, et, dans sa pensée, il exalta tellement les mérites de la belle Minnie et déprécia tellement ses propres qualités que, lorsqu'il s'attacha à la solution de cette question, l'espoir commença à lui manquer. En définitive, pendant qu'il s'habillait pour le dîner, il se décida à ne pas devenir amoureux de Chéri. Il n'était que 5 convives autour d'une table ronde, et le dîner se passa très agréablement. Ils avaient tant de scènes et tant de personnes à se rappeler, et ils étaient si à leur aise et si gais ensemble, Daniel Doyce se tenant à part, comme un spectateur qui s'amuse à voir les autres jouer aux cartes et se contentant d'intercaler quelques remarques judicieuses par occasion, qu'ils auraient pu s'être rencontrés 20 fois sans se connaître mieux qu'ils ne le faisaient. « Et Mademoiselle Wade ?» demanda M. Meagles, lorsqu'ils se furent rappelés un grand nombre de leurs compagnons de route. « Qui est-ce qui a revu Mademoiselle Wade ?»« Moi, » dit Tattycoram. Elle venait d'apporter un petit mantelet que sa jeune maîtresse lui avait envoyé chercher, et elle se penchait sur Chéri afin de le lui mettre sur ses épaules lorsqu'elle leva ses yeux noirs pour faire cette réponse inattendue. « Tati, » s'écria sa jeune maîtresse, « vous avez vu Mademoiselle Wade ? Où cela ?»« Ici, mademoiselle, » dit Tattycoram. « Comment ?» Un regard impatienté de Tattycoram parut, à ce que pensa Clennam, répondre « avec mes yeux ». Mais elle fit une autre réponse en parole et dit « Je l'ai rencontrée près de l'église ». « Je voudrais bien savoir ce qu'elle faisait là, » dit M. Meagles. « Elle n'y allait pas, je le parierais. » Elle avait commencé par m'écrire. « Oh, Tati, » murmura Chéri, « ôtez vos mains. Il me semble qu'il y a une autre personne qui me touche. » Elle dit cela avec une vivacité involontaire, quoique d'un ton plutôt enjoué, sans y mettre plus de pétulance ou d'intention désagréable, qu'on en devait naturellement attendre d'une enfant gâtée, qui se mit à rire l'instant d'après. Tattycoram serra ses lèvres rouges et se croisa les bras sur la poitrine. « Voudriez-vous savoir, monsieur, » dit-elle en s'adressant à M. Meagles, « ce que Mademoiselle Wade m'a écrit ?»« Eh bien, Tattycoram, » répondit M. Meagles, « puisque vous m'adressez cette question, et qu'il n'y a que des amis ici, peut-être ferez-vous aussi bien de nous le dire, si cela vous convient. Elle a su, pendant que nous voyagions, où vous demeurez, » reprit Tattycoram, « et elle m'avait vu quand vous n'étiez pas tout à fait de bonne humeur, Tattycoram, » suggéra M. Meagles, qui secoua la tête comme un paternel avertissement à l'adresse de ses yeux noirs, « ne vous pressez pas. Prenez votre temps, Tattycoram. » Elle comprima de nouveau ses lèvres rouges et respira longuement, de sorte qu'elle m'a écrit pour me dire que, si jamais je me sentais froissé, elle abaissa les yeux sur sa jeune maîtresse, ou, si je me trouvais tourmentée, elle regarda encore une fois Chéri, je pourrais aller la trouver, et qu'elle me prendrait avec elle et me traiterait bien. Je devais y réfléchir et lui rendre réponse près de l'église, de façon que je suis allé la remercier. « Tati, » dit Chéri, toujours assise, et passant la main par-dessus son épaule, afin que l'autre pût la prendre, « Mademoiselle Wade m'a fait presque peur. » Lorsque nous nous sommes dit adieu, et je ne suis pas étonné d'avoir frissonné de ce qu'elle se trouvait si près de moi à mon insu. Ma chère Tattycoram. » Tattycoram demeura un instant immobile. « Eh bien, » s'écria M. Meagles, « prenez encore votre temps. Ne vous gênez pas, Tattycoram. Je vous donne 25 à compter. » Elle n'avait pas seulement eu le temps de compter jusqu'à 12, qu'elle se pencha pour baiser la main caressante qui lui effleura la joue, tout contre les belles boucles de Chéri. Puis elle s'éloigna. « Eh bien, » dit doucement M. Meagles, tandis qu'il faisait tournoyer sur ses pieds la servante qui se trouvait à sa droite pour prendre dessus le sucrier, « voilà une fille qui aurait été perdue sans ressources si elle n'était pas tombée entre les mains de gens pratiques. Mère et moi, nous savons, simplement parce que nous sommes des gens pratiques, qu'il y a des moments où la nature de cette fille semble se révolter lorsqu'elle nous voit si concentrés dans notre amour pour chéri. Pauvre âme, elle n'a eu ni père ni mère qui s'occupât d'elle. Je ne pense jamais qu'avec chagrin à ce que doit éprouver cette malheureuse enfant, si colère et si irritée, lorsqu'elle entend répéter le 5e commandement le dimanche. J'ai toujours envie de lui crier « N'oublie pas que nous sommes à l'église, Tatikoram, compte jusqu'à 25 ». Outre cette aide muet qu'on nomme une servante, M. Meagles avait deux autres aides qui n'étaient pas muets du tout dans la personne de deux servantes bien vivantes, au visage rose et aux yeux brillants, qui ne formaient pas l'ornement le moins brillant des décors de la salle à manger. « Et pourquoi pas, je vous prie ?» demandait M. Meagles à ce sujet. « C'est ce que je dis toujours à mère. Puisqu'il faut regarder quelque chose, pourquoi ne pas regarder quelque chose de joli ?» Une certaine Madame Tickett, qui remplissait les fonctions de cuisinière et de femme de charge, lorsque la famille habitait la maison, et celle de femme de charge seulement, lorsque la famille était absente, complétait le personnel de l'établissement. M. Meagles regretta que la nature des devoirs actuels de Madame Tickett rendît cette dame peu présentable en ce moment. Mais il espérait que ses visiteurs feraient connaissance avec elle le lendemain matin. C'était une des colonnes de la maison, dit-il, et tous ses amis la connaissaient bien. Le portrait de Madame Tickett se trouvait là-bas dans le coin. Lorsqu'il partait pour un voyage, elle ne manquait jamais de revêtir la robe de soie et le tour de cheveux noirs représenté dans son portrait. À la cuisine, sa chevelure était d'un gris roux, s'installait dans le salon, mettait ses lunettes entre deux pages spéciales du traité de médecine domestique du docteur Bacon et regardait par la croisée jusqu'au jour de leur retour. On supposait généralement qu'il était impossible d'inventer aucun prétexte assez puissant pour décider Madame Tickett à abandonner son poste auprès de la croisée ou à se dispenser de la présence du docteur Bacon. Bien que M. Meagles eût l'intime conviction que la dame n'avait jamais lu un seul mot des élucubrations de ce docte praticien. Le soir, on fit un rubère prosaïque. Chéri allait et venait dans le salon, regardant quelquefois le jeu de son père ou chantant au piano quand l'envie l'en prenait pour son propre amusement. C'était une enfant gâtée. Mais comment aurait-il pu en être autrement? Qui donc eût pu vivre avec un être si aimable et si charmant sans céder à sa douce influence? Qui donc eût pu passer une soirée dans la maison et ne pas aimer Chéri pour le charme et la grâce que sa seule présence répandait autour d'elle? Telles furent les réflexions de Clennam, malgré la résolution bien arrêtée qu'il avait formée au coin du feu, et, en laissant ses réflexions, il révoqua sa résolution. « Mais à quoi pensez-vous donc, mon cher monsieur ?» demanda d'un ton de surprise M. Meagles, dont il était le partenaire. « Je vous demande pardon, à rien, » répondit Clennam. « Pensez donc à quelque chose une autre fois, soyez gentil, » ajouta M. Meagles. « Je suis sûr, » dit Chéri, « que M. Clennam pensait à Mademoiselle Wade. »«
Pourquoi Mademoiselle Wade, Chéri ?» demanda le père.
« Ah oui, pourquoi donc ?» répéta Arthur Clennam. Chéri rougit un peu et retourna au piano. Comme ils allaient se retirer pour la nuit, Arthur entendit Daniel Doyce qui demandait à son hôte s'il pouvait lui accorder une demi-heure d'entretien le lendemain matin avant déjeuner. L'hôte ayant accordé l'audience demandée, Arthur resta en arrière un instant, ayant un mot à ajouter là-dessus. « Monsieur Meagles, » dit-il lorsqu'ils se trouvèrent seuls, « vous rappelez-vous le jour où vous m'avez conseillé de me rendre directement à Londres ?»«
Parfaitement. »
« Et les autres bons conseils que vous m'avez donnés, et dont j'avais grand besoin alors ?»«
Je ne vous dirai pas s'ils valaient grand-chose, » répondit Monsieur Meagles, « mais je n'ai toujours pas oublié que nous avons eu ensemble des causeries très agréables et pleines d'une douce confiance. »«
J'ai suivi vos conseils. » Et, m'étant débarrassé d'une occupation qui m'était pénible pour bien des raisons, je désire utiliser ce qu'il me reste de vigueur et de fortune dans quelque autre emploi.
« Vous avez raison, vous ne sauriez le faire trop tôt, » répliqua M. Meagles.
Or, en venant ici aujourd'hui, j'ai appris que votre ami, M. Doyce, cherche un associé
qui l'aide à diriger son atelier de construction. Non pas un associé qui ait les mêmes connaissances mécaniques que lui, mais quelqu'un qui s'occupe de tirer le meilleur parti possible des affaires auxquelles il les applique. « Justement, » dit M. Meagles, les mains dans ses poches, et avec cette physionomie d'homme d'affaires qui rappelait le temps où il se servait des balances et de la petite pelle. M. Doyce m'a dit en passant, dans le cours de notre conversation, qu'il allait demander votre précieux avis pour le choix d'un associé dans ces conditions. Si vous pensez que nos vues et nos moyens puissent coïncider, peut-être voudrez-vous bien lui faire connaître la somme dont je puis disposer. Je parle, cela va sans dire, dans une complète ignorance des détails. Il se peut que nous ne nous convenions ni d'un côté ni de l'autre. Sans doute, répondit M. Meagles, avec une prudence qui rappelait les balances et la petite pelle. Mais ce sera là une question de chiffres et de comptes. Parfaitement, parfaitement, dit M. Meagles, avec une solidité arithmétique qui rappelait encore les balances et la petite pelle. Et je serai heureux d'entamer les négociations, pourvu que M. Doyce y consente et que vous n'y trouviez rien à redire. Si donc, pour le moment, vous voulez bien me permettre de placer l'affaire entre vos mains, vous m'obligerez beaucoup. Clennam, j'accepte très volontiers cette mission, dit M. Meagles, et sans méconnaître d'avance la difficulté qu'en votre qualité d'homme habitué aux affaires, vous avez pu prévoir, je me crois autorisé à dire qu'il me semble que votre proposition a des chances. Dans tous les cas, soyez bien persuadé d'une chose, c'est que Daniel Doyce est un parfait honnête homme. C'est parce que j'en suis sûr que je me suis promptement décidé à vous parler. Il faudra le guider, vous savez, il faudra le piloter, il faudra le diriger. C'est un homme à lubie, dit M. Meagles, qui évidemment voulait seulement donner à entendre que Daniel faisait des choses que personne n'avait faites avant lui et marchait dans une voie nouvelle, mais il était franc comme l'or. Sur ce, bonsoir. Clennam remonta à sa chambre, s'assit de nouveau devant le feu et se déclara à lui-même qu'il était content de s'être décidé à ne pas devenir amoureux de chérie. Elle était si belle, si aimable, si propre à recevoir toutes les impressions honnêtes qu'on donnerait à sa douce nature et à son cœur innocent, si bien faite pour rendre heureux l'homme qui lui communiquerait ses impressions, à faire de lui le plus fortuné et le plus envieux des mortels, qu'Arthur fut vraiment ravi de la résolution qu'il avait prise. Mais comme c'était peut-être aussi une raison pour revenir à une détermination contraire, il y songea encore un peu, pour l'acquis de sa conscience sans doute. Supposons qu'un homme, pensa-t-il, qui aurait atteint sa majorité il y a une vingtaine d'années environ, qui serait un peu timide, par suite de la manière dont il a été élevé, un peu grave par suite des circonstances de sa vie, qui saurait qu'on peut lui reprocher de manquer d'une foule de charmantes petites qualités qu'il admire chez les autres, par suite de son long séjour dans une région éloignée où il n'y avait rien qui pût adoucir ses manières, qui n'aurait pas eu l'avantage de se faire connaître à elle par les éloges complaisants de ses sœurs, n'ayant pas de sœurs, qui ne pourrait offrir à sa femme une demeure comme celle qu'elle quitterait pour lui, qui serait comme un étranger dans son pays natal, qui n'aurait pas du tout dans sa fortune de quoi compenser ses défauts, qui n'aurait pour lui que la sincérité de son amour et son désir de bien faire, supposons qu'un homme de ce genre visita cette maison et que, cédant au charme de cette jeune fille, il se persuada qu'il peut espérer de la conquérir. Quelle faiblesse ! Il ouvrit doucement la croisée et contempla la paisible rivière. D'année en année, eu égard au tirage du bateau, la rivière faisait tant de milles à l'heure. Ici les roseaux, là-bas les lys, rien de vague, rien d'incertain. Pourquoi voulez-vous qu'Arthur se sentît agacé ou accablé de tristesse? Cette faiblesse imaginaire n'était pas la sienne. Ce n'était la faiblesse de personne. Arthur ne connaissait personne qui eût cette faiblesse-là. Pourquoi voulez-vous donc qu'il s'en tourmentât? Eh bien, il n'en est pas moins vrai qu'il s'en tourmentait. Et il pensait, qui n'a point pensé cela quelquefois, que peut-être il eût mieux valu couler des jours aussi monotones que cette rivière, et que si elle était insensible au bonheur, elle ne l'était pas moins à la peine, ce qui est toujours un avantage.
Chapitre 17. Le rival de personne. Le lendemain matin, avant de déjeuner, Arthur se promena pour admirer les environs. Comme il faisait beau et qu'il avait une heure devant lui, il traversa la rivière dans le bac et se promena le long d'un sentier à travers les prairies. Lorsqu'il revint au chemin de halage, il vit le bac de l'autre côté de la rivière et un gentleman qui allait le passeur pour traverser. Ce gentleman paraissait à peine avoir 30 ans. Il était bien mis, avait l'air actif et gai, la taille bien prise et le teint brun. Au moment où Arthur escaladait une barrière pour gagner le bord de l'eau, l'inconnu le regarda un instant, puis se remit, dans son désœuvrement, à pousser du pied des cailloux pour les faire rouler dans la rivière. Il y avait dans sa manière de les déraciner avec le talon de sa botte et de les placer devant lui dans la position voulue pour les lancer à coup sûr, quelque chose qui, aux yeux de Clennam, avait un certain air de cruauté. Combien de fois ne nous est-il pas arrivé d'éprouver des impressions pareilles en observant la façon dont un homme accomplit quelque action insignifiante, telle que d'arracher une fleur, de repousser un obstacle, ou même de détruire un objet insensible. L'étranger semblait préoccupé, son visage le témoignait assez, et il ne faisait aucune attention à un beau chien de Terre-Neuve qui le regardait attentivement, suivant des yeux chaque pierre à mesure que son maître les lançait, n'attendant qu'un signal pour se jeter à leur poursuite dans la rivière. Le passeur arriva cependant, sans que le chien reçût la permission désirée, et lorsque le bateau toucha la rive, son maître prit le Terre-Neuve par le collier et le fit entrer dans le canot. « Pas ce matin, » dit-il au quadrupède. « Vous ne pourriez pas vous présenter devant les dames en sortant de l'eau. Couchez !» Clennam suivit l'homme et le chien dans le bateau. Le chien obéit à l'ordre qu'il venait de recevoir. Le maître, les mains dans les poches, resta debout entre Clennam et le passeur. Le maître et le chien sautèrent lestement à terre dès que le bateau eut touché de l'autre côté et s'éloignèrent. Clennam fut bien aise d'en être débarrassé. L'horloge de l'église voisine sonnait l'heure du déjeuner comme il remontait le petit sentier par lequel on arrivait à la grille du jardin. Dès qu'il tira la sonnette, il entendit un chien aboyer de l'autre côté du mur. « Tiens, je n'avais pas attendu le chien hier soir, » pensa Clennam. La porte fut ouverte par une des servantes aux joues roses, et sur la pelouse, il vit le Terre-Neuve et l'étranger. « Mademoiselle Minnie n'est pas encore descendue, messieurs, » dit la portière rougissante, tandis qu'ils entraient tous ensemble dans le jardin. Puis elle dit au maître du chien, « Monsieur Clennam, monsieur, » et s'éloigna en courant. « C'est assez drôle, monsieur Clennam, que nous nous soyons rencontrés tout à l'heure sans nous connaître, » dit l'étranger. Là-dessus, le chien devint muet. « Permettez-moi de me présenter moi-même. Henry Gowan. Un joli endroit. » et qui a extrêmement bonne mine ce matin. Les manières étaient aisées et la voix agréable, mais cela n'empêcha pas Clennam de penser encore que, s'il n'avait pas formé cette résolution, bien arrêtée, de ne pas devenir amoureux de Sherry, il aurait éprouvé de l'antipathie pour Henry Gowan. « Vous ne connaissez peut-être pas encore cette résidence, » dit ce Gowan, lorsque Clennam eut répondu par l'éloge de l'ermitage de Meagles. « Très peu. J'y suis venu pour la première fois hier dans l'après-midi. Ah, il va sans dire que vous ne le voyez pas dans son beau. Tout cela avait un aspect ravissant au printemps, avant leur dernier voyage. Je regrette que vous ne l'ayez pas vu alors. Sans cette diable de résolution, Clennam aurait volontiers envoyé l'étranger au fond du cratère de l'Etna en échange de sa politesse. J'ai eu le plaisir de voir cette propriété sous bien des aspects depuis 3 années, et c'est un véritable paradis. Voyez un peu l'impudent coquin, c'est-à-dire si nous n'avions pas pris cette sage résolution, d'appeler ce jardin un paradis. Il ne l'avait appelé un paradis que parce qu'il voyait venir Sherry, et qu'il avait voulu lui faire entendre qu'il la regardait comme un ange. Que le diable l'emporte. Ah, comme les yeux de Sherry brillèrent! Comme elle parut contente, comme elle caressa le chien, et comme le chien la connaissait bien. Que de choses on devinait dans ce teint plus animé, dans ce trouble,
dans ses yeux baissés, dans ce bonheur dissimulé. Clennam n'avait jamais vu Minnie si joyeuse. Non qu'il y eût aucun motif pour qu'il pût ou voulût jamais lui voir cet air-là, ou qu'il l'eût jamais espéré, mais enfin, il ne l'avait jamais vue si joyeuse. Il se tenait à quelque distance d'eux. Ce Gawain, lorsqu'il avait parlé de paradis, s'était avancé vers elle et lui avait pris la main. Le chien avait posé ses grosses pattes sur le bras de Chéri et sa tête contre la chère poitrine de la jeune fille. Elle avait ri et leur avait souhaité la bienvenue. Elle avait fait trop fête au chien, beaucoup, beaucoup trop, c'est-à-dire en supposant qu'il se fût trouvé là un spectateur qui eût été amoureux d'elle. Elle se dégagea alors et, s'avançant vers Clennam, lui tendit la main, lui dit bonjour et se disposa gracieusement à lui prendre le bras jusqu'à la maison. Ce Gawain n'y trouva rien à redire. Non, non, il était trop sûr de son fait. Un nuage obscurcit les traits ordinairement joyeux de M. Meagles lorsque les trois promeneurs, quatre y compris le chien, et c'était le personnage le plus désagréable de la société, à une seule exception près, rentrèrent pour déjeuner. Ni ce nuage, ni la légère inquiétude de Mme Meagles, lorsque cette dame dirigea ses yeux vers eux, n'échappèrent à Clennam. « Eh bien, dit M. Meagles, étouffant quelque chose comme un soupir, comment allez-vous ce matin ?»« Mais pas plus mal qu'à l'ordinaire, monsieur. Comme Lyon et moi, nous étions décidés à ne rien perdre de notre visite hebdomadaire, nous nous sommes levés de bonne heure et nous sommes venus à Kingstown, où j'ai établi pour le moment mon quartier général et où je suis en train de terminer une esquisse ou deux. » Puis il raconta comment il avait rencontré M. Clennam dans le bac et comment ils avaient traversé la rivière ensemble. « Madame Gawain se porte bien ?» demanda Mme Meagles. Clennam écouta attentivement. « Ma mère va bien, je vous remercie. » Clennam n'écouta plus et Gawain continua. « J'ai pris la liberté d'ajouter aujourd'hui un convive de plus à votre dîner de famille et j'espère que cela ne dérangera ni vous ni Mme Meagles. » « Je ne pouvais guère faire autrement, » expliqua Gawain en se tournant vers son hôte. « Le jeune homme m'a écrit pour me prier de le présenter. Et comme il appartient à une famille distinguée, j'ai cru que vous ne m'en voudriez pas de vous l'amener. »« Et quel est ce jeune homme ?» demanda M. Meagles avec un air de satisfaction bien prononcé. « C'est un mollusque, le fils de Tenace Mollusque, le jeune Clarence qui est employé dans le bureau de son père. » Que la rivière n'a rien à redouter de sa visite. Il n'y mettra pas le feu. Il n'a pas inventé la poudre. Ah, fit Meagles, c'est un mollusque. Nous connaissons un peu cette famille-là, n'est-ce pas, Dan? Par Saint-Georges. Avec tout ça, les mollusques tiennent maintenant le haut du pavé. Quelle parenté existe-t-il entre votre ami et Lord Decimus Mollusque? Lord Decimus a épousé en 1787 Lady Jemima Bilberry, seconde fille du troisième lit. Non, je me trompe. Celle-là, c'est Lady Séraphine. Lady Jemima était la fille aînée du second lit du 15e comte des Échasses avec l'honorable Clémentine Touzelem. Très bien. Or, le père de notre jeune ami a épousé une des Échasses et son père, à lui, a épousé sa cousine qui était une mollusque. Le père du père qui a épousé une mollusque a épousé une Jottlebay. Mais je remonte trop haut, Gawain. Je voudrais seulement savoir quelle parenté il y a entre votre ami et Lord Decimus. C'est facile à constater. Son père est le neveu de Lord Decimus Mollusque. Neveu de Lord Decimus, répéta voluptueusement M. Meagles en fermant les yeux afin que rien ne vînt le distraire. Le bonheur de savourer le parfum de ce grand arbre généalogique. Par Saint-Georges, vous avez raison, Gawain, c'est bien cela. Par conséquent, Lord Decimus est son grand-oncle. Mais attendez donc, continua M. Meagles, ouvrant les yeux lorsqu'il eut fait cette découverte. Alors, du côté de la mère, Lady Deséchasse est sa grand-tante? Naturellement. Ah, 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 fit M. Meagles, prenant un vif intérêt à ces détails. « Vraiment, nous serons charmés de le voir. Nous le recevrons de notre mieux dans notre humble logis. Et dans tous les cas, nous ne le laisserons pas mourir de faim, je l'espère. » Au commencement de ce dialogue, Clennam s'était attendu à voir M. Meagles s'abandonner à quelque innocent éclat de colère, pareil à celui auquel il s'était livré, en sortant du ministère des circonlocutions, la main sur le collet de Doyce. Mais son excellent hôte avait une faiblesse qui n'est pas rare. Nul de nous n'a besoin d'aller bien loin pour en trouver un exemple, et son expérience des bureaux des circonlocutions n'avait pu en guérir M. Meagles pour longtemps. Clennam regarda Doyce, mais Doyce savait parfaitement à quoi s'en tenir. Cela ne le surprenait pas du tout, et il continua à regarder son assiette sans faire un geste ni prononcer une parole. « Je vous suis bien obligé, » dit Gowan pour terminer. « Clarence est un âne fieffé, mais c'est un des meilleurs garçons que je connaisse. » Il devint évident, avant la fin du déjeuner, que les amis de ce Gowan étaient tous plus ou moins ânes ou plus ou moins fripons, ce qui ne les empêchait pas d'être les plus aimables, les plus charmants, les plus naïfs, les plus sincères, les plus obligeants, les plus chers garçons qu'il fût possible de rencontrer sur la terre. Le procédé au moyen duquel ce Gowan arrivait à cette conclusion invariable, n'importe les prémices, aurait pu être décrit par M. Henry Gowan en ces termes. « J'ai le mérite de cultiver une tenue des livres sociales avec la plus rigoureuse exactitude au bénéfice de tout homme de ma connaissance et de faire des écritures du bien et du mal que je découvre en lui. Je tiens ce compte en partie double avec tant de conscience que je suis heureux de pouvoir vous dire que, tout compte fait, le plus méprisable des hommes est en même temps le plus aimable, le plus charmant camarade qu'on puisse voir. Je suis même fondé à vous faire la flatteuse déclaration qu'il existe beaucoup moins de différence que vous ne seriez disposé à le croire entre un honnête homme et une canaille. Il résultait de cette découverte réjouissante que celui qui en était l'auteur semblait, en se battant les flancs pour trouver un bon côté chez tous les hommes, rabaisser au contraire leurs bonnes qualités lorsqu'il en trouvait, pour faire ressortir les mauvaises. Du reste, ce système n'avait rien de désagréable ni de dangereux. Cependant, M. Meagles en parut moins satisfait que de la généalogie des mollusques. Le nuage que Clennam n'avait jamais vu sur la physionomie de son hôte avant cette matinée revint fréquemment assombrir ses traits. Et il y avait la même ombre d'inquiétude dans le regard observateur de Mme Meagles. Plus d'une fois, lorsque Chéri caressa le chien, il sembla à Clennam que cela rendait le père malheureux. Et une fois surtout, tandis que Gowan se tenait de l'autre côté du chien et penchait la tête en même temps que Minnie, Arthur se figura qu'il voyait des larmes briller dans les yeux de M. Meagles, qui sortit de la chambre à la hâte. Il lui semblait aussi, c'était peut-être encore une illusion, que Chéri elle-même n'était pas sans s'apercevoir de ces petits incidents, qu'elle essayait, avec une affection plus délicate que de coutume, de témoigner à son bon père combien elle l'aimait, que c'était pour ce motif qu'elle était restée derrière, en allant et en revenant de l'église, pour lui prendre le bras. Arthur n'aurait pas mis sa main au feu que plus tard, en se promenant seul dans le jardin, il n'avait pas entrevu Chéri, dans la chambre de son père, embrassant ses parents avec la plus grande tendresse et pleurant sur l'épaule du papa. Comme la pluie se mit à tomber vers la fin de la journée, il fallut bien garder la maison, admirer les collections de M. Meagles et causer pour tuer le temps. Ce Gowan avait toujours quelque chose à dire sur son propre compte, et il le disait d'une manière leste et amusante. Il avait l'air d'un artiste de profession qui avait passé quelque temps à Rome, et pourtant il avait le ton léger et insouciant d'un amateur. Il y avait quelque chose de louche dans sa vocation artistique et dans ses connaissances spéciales qui faisait que Clennam ne savait trop qu'en dire. Non, il appela Daniel Doyce à son secours, tandis qu'ils se tenaient ensemble auprès de la croisée. « Vous connaissez M. Gowan ?» demanda-t-il à voix basse. « Je l'ai vu ici. Il vient tous les dimanches lorsque la famille y habite. » « C'est un artiste, à en juger d'après sa conversation. »«
Une espèce d'artiste, » répliqua Daniel Doyce d'un ton bourru.
« Quelle espèce d'artiste ?» demanda Clennam en souriant. « Ma foi, il a fait un toit de cour aux Beaux-Arts, comme tous les beaux messieurs de Pall Mall,
dit Daniel, et je doute que les beaux-arts se donnent à si bon marché. » Poursuivant son enquête, Clennam découvrit que la famille Garwan était une ramification très éloignée des mollusques et que le père de Garwan, d'abord attaché à une légation britannique, avait reçu une pension de retraite en qualité de commissaire de pas grand-chose dans une ville quelconque, qu'il y était mort à son poste, son dernier trimestre à la main, et défendant vaillamment son traitement jusqu'au dernier soupir. En récompense de cet éclatant service rendu à son pays, le mollusque, alors au pouvoir, avait conseillé à la couronne d'accorder une pension de 200 ou 300 livres sterling à la veuve de ce courageux fonctionnaire. Le mollusque, qui avait succédé au premier, avait alloué par-dessus le marché à la veuve certains petits appartements calmes et retirés dans le palais de Hampton Court, où la vieille dame demeurait encore, déplorant la lésinerie du siècle, en compagnie de plusieurs autres vieilles dames des deux sexes. Son fils, Henry Gowan, ayant hérité de M. Gowan le commissaire, un revenu trop limité pour lui être d'une grande ressource dans ce monde, avait été difficile à caser, d'autant plus que les sinécures vacantes étaient rares pour le moment et que le génie du jeune homme, au sortir même de l'adolescence, l'avait porté à étudier de préférence ce genre d'agriculture qui consiste à cultiver la folle avoine. Enfin, il avait déclaré qu'il voulait se faire peintre. D'abord parce qu'il avait toujours eu un caprice pour cet art, et ensuite parce qu'il désirait par là blesser au cœur l'amour-propre des mollusques en chef qui ne lui avaient pas fait une position. De sorte qu'il était successivement arrivé, d'abord que certaines femmes fort distinguées avaient été horriblement choquées de cette fin, ensuite que les dessins du jeune Gowan avaient circulé dans les réunions du soir, qu'on se les était passés de main en main et qu'on avait déclaré que c'était de véritables Claude, de véritables Kypes, de véritables phénomènes. Puis que Lord Decimus lui avait fait faire son portrait, et qu'ayant invité à dîner, à cette occasion, le président et le conseil du même coup, il avait daigné dire, avec sa gravité superbe, « Savez-vous qu'il y a vraiment un mérite immense dans cette œuvre ?» Bref, des gens de condition s'étaient donné de la peine pour mettre la peinture de Gowan à la mode. Mais avec tout cela, on n'y avait pas réussi. Un public pétri de préjugés avait refusé obstinément d'accepter ce génie tout fait et d'admirer le portrait de Lord Decimus. C'était un parti pris d'avance. Il y avait des obstinés qui voulaient à toute force que, pour réussir dans une profession quelconque, excepté dans celle de fonctionnaire public, il fallut absolument commencer par travailler du matin jusqu'au soir, de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. De façon que M. Gowan, semblable à ce vieux cercueil usé qui n'a jamais été, quoi qu'on en ait dit, celui de Mahomet, ni de personne, restait suspendu entre deux aimants qui se neutralisaient, attiré vers la terre qu'il avait quittée, attiré vers le ciel qu'il ne pouvait atteindre. Tel est le résumé des découvertes que Clennam fit sur le compte de l'artiste, ce soir-là et plus tard. Une heure environ après celle du dîner, Mollusque jeune arriva en compagnie de son lorgnon. En l'honneur des illustres parents de cet hôte, M. Meagles avait renvoyé à la cuisine les jolies servantes de la veille, qui furent remplacées pour cette fois par deux hommes d'un costume plus foncé. Le jeune mollusque fut surpris et déconcerté, au dernier point, en apercevant Arthur, et commença par murmurer « Par exemple, parole d'honneur, vous savez !» avant de retrouver sa présence d'esprit. Il ne put même pas s'empêcher de saisir la première occasion pour emmener Gowan dans l'embrasure d'une croisée et pour lui dire avec cette intonation nasale qui faisait partie de son état de faiblesse générale « J'ai à vous parler, Gowan. Dites donc, voyons un peu, qu'est-ce que c'est donc que cet individu-là » « Un ami de notre hôte, mais je ne le connais pas. C'est un démocrate enragé, vous savez, » dit Mollusque jeune. « Ah bah, où avez-vous appris cela ?»« Eh, mais monsieur, il s'est accroché à nous l'autre jour d'une manière inouïe. Il est allé chez mon père, et là il s'est accroché à lui à ce point qu'il a fallu le faire mettre dehors. Puis il est revenu au ministère et s'est encore accroché à moi. Jamais vous n'avez vu un individu pareil. Qu'est-ce qu'il voulait ?
Eh, mais monsieur, répliqua Mollusque jeune, il voulait savoir quelque chose, vous savez. Il a envahi notre ministère, sans lettre d'audience encore, en disant qu'il voulait savoir. La surprise indignée avec laquelle Mollusque jeune fit cette confidence lui ouvrait si démesurément les yeux qu'il aurait pu se faire mal si l'annonce du dîner n'était pas venue le soulager. Monsieur Meagles, qui avait demandé avec beaucoup de sollicitude des nouvelles de Lord Decimus et de Lady Deséchas, pria Mollusque jeune de donner le bras à Madame Meagles. Et lorsque Mollusque jeune s'assit à la droite de Madame Meagles, Monsieur Meagles eut l'air aussi satisfait que si la famille Mollusque tout entière se fût trouvée là dans sa personne. Tout le charme naturel de la journée précédente était détruit. Les gens qui mangeaient le dîner étaient aussi tièdes, aussi insipides que le dîner lui-même, et tout cela par la faute de ce pauvre imbécile de Mollusque jeune. Peu causeur de sa nature, ce jeune fonctionnaire était en ce moment victime d'une faiblesse particulière qu'il ne fallait attribuer qu'à la présence de Clennam. Il éprouvait une nécessité présente et continuelle de fixer les yeux sur ce gentleman. Son lorgnon en tomba dans sa soupe, dans son verre, dans l'assiette de Madame Meagles, où resta suspendu sur son épaule comme un cordon de sonnette, et fut plusieurs fois honteusement ramené de ses écarts sur la poitrine du jeune bureaucrate par un des domestiques en habit noir. L'esprit affaibli par les pertes fréquentes de cet instrument d'optique qui s'opiniâtrait à ne pas tenir dans son œil, et l'intelligence de plus en plus obscurcie chaque fois qu'il regardait le mystérieux Clennam, il portait par mégarde à son œil les cuillères, les fourchettes et autres matières étrangères dépendantes du service de table. Chaque erreur de ce genre redoublait son embarras, sans qu'il pût venir à bout de s'empêcher de contempler Clennam. Dès que Clennam parlait, cet infortuné mollusque était évidemment en proie à une vive terreur et se figurait que le convive allait trouver quelque prétexte astucieux pour déclarer à haute voix qu'il voulait savoir, vous savez. Il est donc plus que douteux qu'à l'exception de M. Meagles, aucun des convives passa son temps bien agréablement. Mais, par exemple, M. Meagles appréciait infiniment Mollusque jeune. De même que dans ce conte de fées où un simple flacon d'eau dorée devient une fontaine d'or dès qu'on le débouche, de même M. Meagles parut croire que ce petit grain de mollusque donnait à son dîner autant de saveur épicée que l'eût pu faire l'arbre généalogique tout entier. En présence de ce jeune homme, les belles, franches et cordiales qualités de M. Meagles pâlissaient visiblement. Il était moins à l'aise, moins naturel. Il courait après quelque chose qui ne lui appartenait pas. Il n'était pas lui-même. Quelle étrange bizarrerie, croirait-on cela de M. Meagles? Et comme il faudrait aller loin pour trouver quelque chose qui y ressemblât. Enfin, l'humide journée du dimanche fit place à une nuit bien moins humide, et Mollusque jeune s'en retourna chez lui en cabriolet, fumant faiblement un petit cigare. Quant à cet équivoque Gawen, il partit à pied, accompagné de son chien qui ne valait guère mieux. Toute la journée, Chéri avait pris les peines les plus aimables pour être gracieuse avec M. Clennam, mais Clennam s'était tenu sur la réserve depuis le déjeuner, c'est-à-dire se serait tenu sur la réserve s'il avait été amoureux de Chéri. Lorsqu'Arthur fut remonté dans sa chambre et se fut jeté encore une fois dans le fauteuil auprès de la cheminée, M. Doyce frappa à sa porte, la bougie à la main, pour lui demander comment et à quelle heure il comptait retourner à Londres le lendemain. Cette question réglée, Clennam dit un mot à M. Doyce à propos de ce Gawen qui lui aurait trotté dans la tête s'il avait été son rival. « Je n'ai pas grande idée de l'avenir de ce peintre-là. »« Ni moi non plus, » répliqua Doyce. M. Doyce se tenait debout, son bougeoir dans une main, l'autre main dans sa poche, regardant fixement la flamme de la bougie, et on lisait sur sa physionomie paisible qu'il devinait que Clennam avait encore quelque chose à lui dire. J'ai trouvé mon digne ami un peu changé, pas à l'avantage de sa belle humeur, depuis ce matin, à partir de la visite de ce monsieur, dit Clennam. En effet, répondit Doyce. Mais la visite n'a pas produit le même effet sur sa fille, ajouta Clennam. Non, répondit Doyce. Il y eut un silence des deux côtés.
M. Doyce, les yeux fixés sur la flamme de sa bougie, continua lentement. Le fait est que M. Meagles a deux fois emmené sa fille à l'étranger dans l'espoir de la détacher de M. Gawan. Il la croit disposée à avoir du goût pour lui et il a des doutes pénibles, je les partage comme je suis sûr que vous le faites, sur le bonheur qui pourrait résulter d'un pareil mariage. Il y Clennam étrangla, toussa et s'arrêta. « C'est ça, vous vous serez enrhumé, » dit Daniel Doyce, mais sans le regarder. « Il y a promesse de mariage échangée entre les deux jeunes gens, naturellement, » dit Clennam d'un air insouciant. « Non, on m'a positivement dit que non. Le monsieur a demandé qu'on lui fît une promesse de ce genre, mais la demoiselle a refusé. Depuis le récent retour des Meagles, notre ami a bien voulu consentir à recevoir M. Gawan une fois par semaine. Mais voilà tout. Pour rien au monde, Minnie ne voudrait tromper son père ou sa mère. Vous avez voyagé avec eux et vous avez pu reconnaître que cette famille est unie par des liens d'affection qui ne sont pas pour finir de si tôt. Je suis certain qu'il n'y a rien de plus entre Mademoiselle Minnie et M. Gawan que ce que nous voyons. Ah, nous en voyons bien assez, s'écria Arthur. M. Doyce lui dit bonsoir du ton d'un homme qui vient d'entendre une exclamation pleine de tristesse, sinon de désespoir, et qui cherche à rendre un peu de courage et d'espérance à l'esprit de celui qui l'a laissé échapper. Et c'est une nouvelle preuve de sa bizarrerie connue. Ce ne pouvait être qu'une de ses nombreuses lubies de plus. Comment vouliez-vous qu'il pût entendre une exclamation de ce genre sans que Clennam l'entendît également? La pluie tombait lourdement sur le toit et rejaillissait sur la terre détrempée, en fouettant les feuilles de lierre et les branches dépouillées des grands arbres. La pluie tombait lourdement, tristement. C'était une nuit de larmes. Si Clennam ne s'était pas décidé à ne pas devenir amoureux de Chéri, s'il avait eu cette faiblesse, si, petit à petit, il s'était laissé aller à risquer sur un seul coup de dé tout ce qu'il avait d'ardeur et d'espoir, toutes les riches ressources de son caractère mûr et sérieux, s'il avait fait cette imprudence et découvert qu'il avait tout perdu, il aurait été ce soir-là plus malheureux qu'on ne peut dire. Le fait est que la pluie tombait lourdement, tristement.